Pour info, nous sommes rencontrés, je dis nous, il s'agit des personnes qui prennent la parole à tour de rôle dans ce cadre, autrement dit les orateurs, pour ouvrir une nouvelle page de notre réflexion, puisque nous avons, vous le savez, parlé des personnages bibliques depuis pas tout à fait un an, mais presque. Et là, donc, une nouvelle page s'ouvre, et cette page, après réflexion, concertation, discussion, nous avons choisi de la consacrer à l'étude des psaumes. Donc, vous aurez, dorénavant, chaque dimanche, ou pratiquement chaque dimanche, évidemment avec la liberté qui est laissée à chacun, l'étude d'un psaume. Donc, moi, depuis que je sais ça, notre réunion et cette décision date de mardi soir. Comme c'est la première et que ça m'a été suggéré, je me suis documenté pour faire une sorte d'introduction à l'étude des psaumes. Et donc j'ai avalé, pas tout, mais à peu près, enfin, les choses les plus sérieuses et les plus autorisées qui se sont écrites sur le sujet. Et ça n'est pas ce que vous allez entendre ce matin. Ça n'est pas ce que vous allez entendre ce matin pour trois raisons que je vous expose brièvement. Première raison, c'est que à la réflexion, vous n'êtes pas venu pour ça. Vous n'êtes pas venu pour avoir je ne vais pas dire cours de théologie, ce serait très prétentieux, mais disons le cours d'introduction au psaume qu'on pourrait faire dans une école biblique, parce que la plupart d'entre nous avons besoin d'être encouragés, exhortés, et que une espèce de documentaire parlé sur les psaumes, alors encore une fois, sans prétention, je pourrais vous en dire beaucoup sur la datation des différents psaumes, les auteurs présumés, la langue, enfin le langage utilisé dans certains psaumes et dans d'autres, les psaumes qu'on appelle alphabétiques parce qu'ils commencent... je pourrais vous en mettre pendant une heure comme ça, et puis, franchement, je pense que je serai à côté de la plaque. La deuxième raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que, à la réflexion, c'est pas sympa pour mes petits camarades. Parce que, par exemple, je pourrais vous décrire, effectivement, tous les instruments de musique qui sont nommés en tête pour l'accompagnement, mais à la réflexion, il est préférable que celui qui va étudier tel ou tel psaume vous disent, on dit que c'est un psaume de David, donc voilà, on dit qu'il doit être accompagné comme ça avec l'instrument à 8 cordes, donc voilà que, bon. Donc, ce serait un peu couper l'herbe sous le pied de tous les intervenants que de balayer ça. Et la troisième raison, qui est une raison, alors là pour le coup décisive, c'est que, il m'est revenu en mémoire, et il serait temps, que les psaumes contiennent eux-mêmes leur propre introduction. L'introduction au livre des psaumes, ça existe dans le livre des psaumes. Et l'introduction au livre des psaumes, c'est ce qu'on appelle les psaumes 1 et 2. Alors, je ne vais pas vous faire une démonstration, mais si vous prenez les psaumes 1 et 2, vous allez voir qu'ils ont des particularités par rapport à tous les autres. Notamment le fait de ne pas avoir d'en-tête, ça commence, si je puis dire, bille en tête, sans qu'on donne un nom d'auteur, alors que, vous avez déjà compris ce que je vais dire, mais si vous prenez, donc les psaumes 1 et 2 commencent directement, si vous prenez le psaume 3, psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom, psaume 4, du chef de chœur avec les instruments à cordes, psaume de David, psaume 5, du chef de chœur pour des flûtes, psaume de David, psaume 6, du chef de chœur avec l'instrument à 8 cordes, psaume de David, etc. Confession de David, il chanta au Seigneur, sur couche le benjaminite, on donne même l'air sur lequel ça se chante. Bon, bref, on a d'entrée deux psaumes qui sont, alors je vais passer un petit peu de temps à vous expliquer pourquoi on peut considérer que c'est l'introduction à l'ensemble du livre des psaumes, qui sont, alors, en apparence, très différents dans leur contenu, mais en réalité très semblables sur la forme, sur la langue utilisée, sur les mots employés et surtout sur le fait que à eux deux, ils résument, et je vais vous le dire dans un instant, ils résument, c'est prétentieux, mais la totalité du message biblique. Alors, donc je vais, en guise d'introduction, donc je vais garder pour moi mes l'étalage de mon érudition, ça sera très bien pour ma modestie, et je vais donc étudier avec vous brièvement les psaumes 1 et 2. Non quand même sans vous avoir dit que ce livre, c'est le livre en hébreu des louanges, Tehilim. Tehilim, avec, alors ça ne saute pas aux oreilles, ça saute plus aux yeux, la racine du mot louange, Hallel, c'est ce qu'on retrouve dans, et on l'a chanté, Alléluia. Alléluia, c'est louange au Seigneur, louange à Dieu, ou célébrer, si vous voulez. Alors, je serais tenté de vous dire, ça s'appelle psaume dans nos Bibles par accident, très brièvement. Pincer des cordes, jeune homme, tu le sais sans doute, en grec, ça se dit psalain. Psalain, du coup, l'instrument le plus répandu à l'époque s'appelle en grec psalterion, parce que c'est un instrument. Alors, les cordes qu'on pince, c'est vrai, autant psalain, ça s'utilise autant pour les instruments que pour les archers, par exemple. C'est un terme générique. Mais donc, ça a donné psalterion pour l'instrument le plus répandu, c'est-à-dire l'équivalent de notre guitare. Les chants accompagnés au psalterion, on a fini par les appeler psalmos, en grec, dans la Bible grecque, c'est-à-dire dans la Bible qu'on appelle des Septante, les 70, c'est-à-dire la traduction de la Bible pour les juifs qui ne parlaient plus l'hébreu, et donc psalmos, ça a donné les psaumes, et c'est pour ça qu'on appelle ça les psaumes, parce que c'est traduit du grec. Mais en hébreu, le titre du livre, c'est donc Tehilim, les louanges. Donc, je lis. Donc, je vais lire les deux, psaume 1 et 2. Soyez attentifs à la lecture, parce que, effectivement, enfin, je vais... Heureux. Alors, j'espère qu'on est à peu près, calé sur la traduction, une remarque générale. C'est pas simple la traduction. Enfin, l'hébreu n'est pas une langue facile. Donc, il y a des choses qui sont pas évidentes à traduire et du coup pas évidentes à comprendre. Donc, il est possible qu'il y ait des écarts d'une traduction à l'autre. Autant le grec, c'est suffisamment proche du français pour que le Nouveau Testament y soit traduit en français de manière, sans la moindre hésitation. Autant l'hébreu, c'est pas tout à fait vrai. Alors. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et la récite et récite sa loi jour et nuit. Juste une parenthèse, tout à l'heure, quand je vais avoir fini de parler, vous allez penser qu'on s'est téléphoné hier, c'est pas possible autrement, et c'est pas vrai, on s'est pas téléphoné. Mais vous allez retrouver dans tout ce que je vais dire des choses que Manu a mis en lumière. Le terme, c'est murmure. C'est la parole de Dieu comme murmure, on l'a chanté. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, il donne du fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas, il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants, ils sont comme la balle que disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes, car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Voilà pour le psaume 1 et le psaume 2. Pourquoi cette agitation des peuples, ces grondements inutiles des nations? Les rois de la terre s'insurgent, et les grands conspirent entre eux, contre le Seigneur et contre son Messie. Brisons leurs liens, rejetons leurs entraves. Ça, c'est ce qu'ils disent, hein. Il rit, celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux, alors il leur parle avec colère et sa fureur les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte, je publierai le décret, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, demande-moi et je te donne les nations comme patrimoine, en propriété les extrémités de la terre, tu les écraseras avec un sceptre de fer. Alors là, petite parenthèse par rapport à ce que je vous disais à l'instant, selon qu'on traduit l'instrument par un sceptre, donc le sceptre royal, on peut traduire « tu les briseras », mais si, ce qui peut se comprendre aussi, on traduit par le bâton de berger, pas le saucisson, hein, le bâton du berger, à ce moment-là, il faut traduire le verbe qui précède par « tu les feras paître ». Tu les feras paître comme un berger avec un bâton de fer. Et mais on traduit plutôt tu les briseras avec un sceptre de fer, parce que le verset suivant dit et comme un vase de potier tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, soyez intelligent, laissez-vous corriger, juge de la terre, servez le Seigneur avec crainte, exultez en tremblant, rendez hommage au Fils. Alors là aussi, c'est difficile à traduire. Qu'est-ce qu'on dit là? Voilà, au Fils, rendez votre hommage. On n'est pas sûr que ce soit au Fils, parce que le bar signifie fils, mais en araméen, mais pas en hébreu ancien. En hébreu ancien, ça signifie pur. Donc, on peut aussi traduire pur. Mais bon. Sinon, il se fâche et vous périssez en chemin. Un rien et sa colère s'enflamme. Heureux tous ceux dont il est le refuge. Une fois qu'on a lu ça, on a en quatre points le résumé de tout le message biblique. Psaume 1 et 2, mis ensemble. Premier point, tout être humain, individuellement, a un choix à faire. Il est placé devant un choix. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Et le choix qu'il fait appelle un jugement. Dieu juge les hommes, les êtres humains, en fonction du choix que librement, mais qui dit liberté, dit responsabilité, que librement, ils ont fait. Donc le premier point, c'est que on est placé devant un choix, et que le deuxième point, c'est que il y a à la clé, si je puis dire, de ce choix qu'on fait, un jugement. Le troisième point, il est dans le psaume 2, Dieu donne la souveraineté au Messie. Dieu donne au Messie tout pouvoir, ça fait écho avec la parole de Jésus, tout pouvoir, tous les pouvoirs m'ont été donnés sur la terre et au ciel. Dieu fait de son Messie le souverain absolu et celui qui va disqualifier tous les autres. Et ce souverain, on est appelé, tout le monde va reconnaître cette souveraineté, soit de manière heureuse pour ceux qui l'auront fait volontairement, soit de manière douloureuse pour ceux qui l'auront fait sous la contrainte, c'est-à-dire contre leur gré. Quand on a dit ça, on a, je ne vais pas dire, mais quand même bien résumé l'essentiel du message biblique. L'être humain a un choix à faire. Ce qui l'attend fondamentalement par rapport à ce choix, c'est un jugement de Dieu. La finalité de l'histoire, avec un grand H, c'est le règne du Messie. Règne du Messie qui, encore une fois, va être heureux. D'ailleurs, vous avez remarqué que c'est un des parallélismes qui fait que les psaumes 1 et 2 se correspondent. Le psaume 1er commence par une béatitude individuelle, et le deuxième psaume se termine par une béatitude collective. Ça commence par « Heureux l'homme qui ne prend pas un nain » et ça finit par « Heureux tous ceux dont il est le refuge » à propos du Messie. Et donc, souveraineté heureuse pour ceux qui l'auront reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme souverain absolu, et douloureux pour ceux qui auront voulu maintenir en face de ça une autre souveraineté que la sienne, parce que c'est de ça qu'il est question. Et le psaume 2 qui vise les rois et les souverains de la terre, on aurait tort de se dire « je ne suis pas concerné ». On a tous, j'allais dire, de manière naturelle, puisque comme le disait Manu il y a un instant, c'est lui qui nous sanctifie. À la base, on ne l'est pas, et on en est même loin. Notre nature pervertie nous pousse à revendiquer au moins pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, parce qu'on est capable d'empoisonner les autres avec ça, mais surtout pour nous-mêmes, une souveraineté qui doit être celle du Christ. Donc, Donc tout est dit. Alors, ne comptez pas sur moi pour m'arrêter pour autant. Mais c'est en tout cas la raison pour laquelle les psaumes 1 et 2 sont une introduction à l'ensemble du livre des psaumes. C'est que, et je ne veux évidemment pas qualifier pour donner des conseils aux autres orateurs, mais je me permets un petit conseil aux auditeurs de ce qui sera dit les autres fois. Du coup, tous les psaumes doivent être entendus, tous ces chants, toutes ces louanges, doivent être entendus par rapport à ce contexte-là, dont on ne peut pas s'abstraire, et parfois, parce que certains psaumes nous paraissent tellement éloignés de nos modes de vie contemporains qu'on pourrait se dire, ça je peux rien en faire. Hein. Des fois on lit des psaumes et on se dit, ouais d'accord, mais moi je prends ma bagnole le lundi matin après pour aller travailler, il n'y a pas grand rapport avec ce que je viens de lire. Encore une fois, tout doit être lu et compris dans ce contexte-là, c'est-à-dire, le choix, le jugement à venir, l'absolue souveraineté du Messie et la soumission à cette souveraineté, j'allais dire de gré ou de force. Nous, si nous sommes là, c'est parce que nous avons volontairement accepté de soumettre nos vies à sa volonté. Alors, pour entrer un tout petit peu, mais pas longtemps, dans les détails, puisqu'encore une fois, quasiment tout est dit, c'est, même si ça paraît antique comme propos, c'est étonnamment moderne, parce que la première mise en garde, c'est la mise en garde contre le mimétisme ambiant, c'est-à-dire ne pas se couler dans le moule de son environnement. On ne dit pas « heureux l'homme qui ne pêche pas, qui ne... » Alors, si vous voulez, il y a une espèce de gradation, il y a trois mots différents. Il y a d'abord ceux qui font le mal, ce que le verset premier appelle les méchants. Donc ceux-là, c'est ceux qui font du mal. Après, à la phrase suivante, c'est ceux qui désobéissent à la loi. Là, les pécheurs, en l'occurrence. Et le troisième, c'est les moqueurs, c'est-à-dire ceux qui ne font pas spécialement du mal, mais ça les fait marrer, quoi. C'est universel et intemporel, cette classification. Aujourd'hui encore, des dizaines de siècles plus tard, il y a toujours des gens qui font du mal. Mais ce n'est pas la majorité. C'est vrai que quand vous parlez quand on a des conversations avec les gens qui nous entourent, mais moi je ne vois pas pourquoi j'irai en enfer, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, etc. Les gens qui font du mal, c'est-à-dire qui volent, qui violent, qui tout ce que vous voulez, sont, et heureusement, pas la majorité. Mais ça existe. Après, il y a ceux qui désobéissent à Dieu, les pécheurs, ceux qui ratent la cible étymologiquement. Et puis, il y a tous ceux, et vous en côtoyez, nous en côtoyons, j'en côtoie, il y a ceux que ça fait marrer, quoi. Ah, vous croyez encore Ouais. Alors, ils se bidonnent pas pour être polis, mais il y a le petit sourire en coin, enfin, je sais pas si vous avez cette expérience-là, mais il y a toujours le petit sourire en coin, de, ah, tu... au 21e siècle, et puis, t'es quand même pas à bac moins 12, donc, et tu crois encore à ça? Bon, c'est sympa. Mais si ça te fait du bien, hein. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les moqueurs. Et donc, ce que vous avez observé, c'est que le psaume ne dit pas « Heureux ceux qui ne sont ni les méchants qui font du mal, ni les pécheurs qui désobéissent, ni les moqueurs qui se marrent. » C'est simplement « Heureux ceux qui ne les côtoient pas. Heureux ceux qui ne... » et puis c'est même pas les imiter, c'est même pas heureux ceux, alors c'est déjà pas heureux ceux qui font du, heureux ceux qui ne font pas du mal, c'est même pas heureux ceux qui n'imitent pas ceux qui font du mal, c'est heureux ceux qui ne les fréquentent pas, qui ne marchent pas avec eux, qui ne s'assoient pas avec eux, qui se tiennent à l'écart en tout cas. Alors, c'est tout l'équilibre tout le défi que Jésus nous lance en disant vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est très facile de rompre cet équilibre, soit dans un sens, soit dans l'autre, en disant, pour être sûr de ne pas approcher les méchants, les pécheurs, les moqueurs, je vais me retirer du monde. où est le monastère le plus proche, gardez-moi une chambre. Et puis, il y a le risque inverse, qui est de tellement être dans le monde qu'on est aussi du monde. Et du coup, là, on est mis en garde. Parce que le simple fait de côtoyer, mais de côtoyer, j'allais dire, par adhésion, c'est-à-dire d'être tellement bien avec ces gens-là que du coup, par mimétisme, on est embarqué avec eux. Je crois qu'on se comprend et je crois qu'on a tous l'expérience de ça. C'est que ça peut être sympa de passer du temps avec des gens la foi ou ce qu'ils appellent la religion fait gentiment sourire. Si on est tellement mieux avec eux qu'avec nous, c'est pas sans problème. Et là, ce que Dieu nous dit par la parole du psaume, c'est vous êtes heureux si vous avez vis-à-vis de ces gens-là la distance nécessaire pour ne pas être confondu avec eux. Après, la deuxième remarque, c'est qu'il n'y a pas de parallélisme. C'est pas heureux ceux qui ne fréquentent pas les méchants, les pécheurs, les moqueurs, et heureux ceux qui fréquentent les gens vertueux, gentils, respectueux de la loi de Dieu. Non. Le contraire de la perdition, c'est pas fréquenter des gens bien. Ce qui nous vaut la béatitude de Dieu, c'est pas fréquenter des gens vertueux qui vont à l'église tous les dimanches, qui disent pas de gros mots. Non, il n'y a pas du tout ce parallélisme-là dans le texte. Le parallélisme, il est fait avec quoi? C'est heureux celui qui s'attache à la parole de Dieu. Alors là, évidemment, dans le texte, c'est la Torah, c'est-à-dire la loi. Mais là, c'est à prendre au sens large, c'est-à-dire heureux celui qui s'attache à la parole de Dieu. Et qui la murmure, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, il l'a récité en murmurant. Effectivement, comme disait Manu tout à l'heure, Dieu ne crie pas. Je ne veux pas entrer en débat avec une forme de charismatisme extraverti, mais nous non plus, on n'a pas besoin de crier quand on s'attache à la parole de Dieu. Mais par contre, jour et nuit, les mots sont beaux, qui se plaît, non, qui met toute sa joie, voilà, toute sa joie, il la met dans la... Ça rend bien ce que dit l'hébreu, c'est-à-dire, ça lui plaît de s'attacher à la parole de Dieu, et ça lui plaît durablement, c'est-à-dire jour et nuit. Alors, la comparaison avec l'arbre est extrêmement puissante, parce que on dit, c'est comme un arbre planté auprès d'un ruisseau. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'en tenir à l'essentiel. Si on parle par anthropomorphisme, c'est-à-dire en se comparant à l'arbre, ou plutôt en comparant l'arbre à nous, parce qu'on dit de cet arbre, il ne perd pas ses feuilles. Non, d'abord on dit il donne du fruit et il ne perd pas ses feuilles. Encore une fois, si on parle par anthropomorphisme, l'énergie de l'arbre, il ne la met pas dans le fait d'avoir du fruit ou de ne pas perdre ses feuilles. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul s'il est suffisamment irrigué ou arrosé. Donc, l'énergie, si on peut dire ça comme ça, de l'arbre, il la met à s'enraciner, et comme il est planté celui-là près des ruisseaux, à s'enraciner de manière à pomper du sol l'humidité nécessaire. Et à partir du moment où un arbre pompe du sol l'humidité nécessaire, il n'a pas d'effort à faire pour garder ses feuilles. Alors, garder ses feuilles, on est bien d'accord que c'est pas... Là, il n'est pas fait allusion aux saisons. Il est fait allusion à un arbre qui perdrait ses feuilles à cause de la sécheresse, par manque d'eau. Et ça ne peut pas lui arriver s'il est suffisamment enraciné. Et les efforts qu'il a à faire, encore une fois, c'est pour pousser ses racines le plus loin possible et le plus près possible du ruisseau qui est à côté, mais sûrement pas pour faire pousser des fruits ou pour garder ses feuilles. Et là, on a une image très, évidemment très parlante, que je n'ai pas besoin de développer longuement. Notre effort, il ne doit pas être dans le fait de donner du fruit. C'est Dieu qui fait ça. Il ne doit pas être dans le fait de faire des efforts surhumains pour ne pas perdre nos feuilles. Il doit être dans le fait de nous enraciner le plus profondément possible et le plus près possible de ce qui est la source de notre vie et de notre vigueur, c'est-à-dire la parole de Dieu à nous, et Dieu lui-même, puisque la parole, c'est lui aussi. Alors, ça c'est un... encore une fois, c'est une image extrêmement parlante, l'image de l'arbre, parce que ça me dit à moi, comme on dit vulgairement, on tire pas sur l'herbe pour la faire pousser. Donc, ne fais pas d'efforts pour porter du fruit. Des fois, je me dis, ça c'est très humain, quand je suis en débat avec quelqu'un ou en discussion, ou j'aimerais bien le convaincre. Qu'est-ce que je pourrais bien trouver qui puisse le convaincre? C'est pas mon boulot, puis j'en suis parfaitement incapable. Ça, c'est Dieu qui le fait. Si je dois porter du fruit, c'est évidemment Dieu qui le fait, c'est pas moi. Moi, ma préoccupation, ça doit être de m'enraciner. Et ça doit pas être de veiller avec angoisse sur la moindre feuille pour dire, pourvu qu'elle tombe pas. Non. S'il y a de l'eau, elle tombera pas, elle va rester verte, elle va rester verte et elle va rester attachée. Et puis je peux faire les efforts que je veux. Si je n'ai pas puisé de l'eau dans le ruisseau par mes racines, bah la feuille, je peux faire les pieds au mur, c'est le cas de le dire, elle va jaunir, elle va tomber. Alors, on peut développer l'image de l'arbre en disant que ce qui fait la force d'un arbre, c'est pas ce qui se voit, c'est ce qui se voit pas. Et deux arbres peuvent paraître rigoureusement identiques. S'il y en a un qui a des racines solides, fortes, bien vivantes, peut y avoir la tempête, hein, l'autre qui va être, encore une fois, son copier-coller, s'il a des racines pourries, au moindre coup de vent, il est par terre. Et ça, n'importe qui ne voit pas sous la terre, il est incapable de dire, celui-là va tenir, celui-là va tomber. Il n'y a que Dieu qui le sait. Et j'allais dire, faut s'interroger là-dessus. Enfin, d'abord, ça nous apprend à ne pas juger. D'ailleurs, Jésus lui-même dira, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ça veut dire, on reconnaît un arbre à sa capacité, autrement dit, à son enracinement, c'est-à-dire à sa capacité de puiser de l'énergie dans le sol pour générer des fruits, et pas à son beau feuillage ou à son tronc. Il est jamais dans ce texte fait allusion au tronc, à la dimension du tronc. Heureux l'homme qui ressemble à un arbre gigantesque avec un tronc énorme. Non, ça peut être pourri. Alors il faut aussi, l'image de l'arbre, ça nous apprend aussi à ne pas juger selon les critères humains. Si j'ai failli dire, mais je vais le dire quand même, il faut aussi se regarder soi-même. Et pour reprendre l'image de l'arbre, vous la connaissez, elle n'est pas très élégante, mais il ne faut pas se prendre pour un chêne si on est un gland. Examinons-nous nous-mêmes. Et encore une fois, pas sur la dimension du tronc, pas sur l'aspect qu'on a sur les photos. C'est examinons, parce qu'on est les seuls à savoir comment et jusqu'où et jusqu'à quel point on est enraciné. Voilà. La dernière chose que je vais dire sur ce psaume premier, je pensais que ça serait trop court ce que j'avais à dire ce matin, c'est qu'il y a dans ce texte un manichéisme assumé. Manichéisme assumé au sens où il y a, comme au jugement dernier, les brebis, les boucs, c'est-à-dire deux catégories et pas une troisième catégorie. Il n'y a pas de neutralité. Et ça, c'est une constante dans le message biblique. C'est que on voudrait bien qu'il y ait une neutralité en disant effectivement, je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas complètement pourri non plus, donc à la sortie ou dans l'ailleurs, si tant est qu'il y a un ailleurs, on me foutra la paix. Ça n'existe pas. Il n'y a pas les bons, les méchants et les neutres, il y a ceux qui sont, lors du jugement, alors, c'est pas moi qui l'invente, tel n'est pas le sort des méchants, ils sont comme la balle que disperse le vent. Oui, alors, vous connaissez l'image, c'est-à-dire que quand on récolte le blé, on lance en l'air, et puis ce qui entourait les grains, ça, le vent l'emmène, et ce qui retombe, c'est uniquement les grains proprement dit. Donc, comparer ceux qui sont du bon côté, j'allais dire, à des arbres, et ceux qui sont pas du bon côté à quelque chose de tellement léger que si on le lance en l'air, le vent l'emporte, c'est extrêmement puissant comme comparaison. Et on en dit, eux, ils ne se relèveront pas, donc pas plus que la balle qui entoure le grain ne retombe, eux ne s'en relèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes, l'assemblée des justes, car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Encore une fois, deux catégories, pas trois. Et selon la formule consacrée, choisis ton camp camarade. Encore une fois, tout être humain, parce que c'est au singulier, hein, tout ça. Tout être humain, en tout cas le heureux l'homme. Donc là, on est clairement sur une interpellation individuelle. On a un choix à faire, et ce choix entraîne une responsabilité et surtout une conséquence. Voilà, donc, j'ai à peu près, pas tout dit, mais dit ce que j'avais à dire sur ce psaume premier, et très brièvement, alors du coup, sur le psaume 2, qui lui termine par une béatitude collective, hein, « Heureux tous ceux dont il est le refuge ». Alors, ce psaume 2, il est, vous le savez, abondamment cité dans le Nouveau Testament, puisque, je vais donner simplement quelques exemples, dans les Actes, par exemple, Actes chapitre 4, verset 24, alors, tous unanimes s'adressèrent à Dieu en ces termes, « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, toi qui as mis par l'Esprit Saint ces paroles dans la bouche de notre père David, ton serviteur, pour, et là, il cite le psaume 2, donc il attribue à David, hein, au passage. Pourquoi donc ces grondements des nations et ces vaines entreprises des peuples? Les rois de la terre se sont rapprochés et les chefs se sont assemblés pour ne faire plus qu'un contre le Seigneur, contre ton oint. » Et là, il distribue les rôles des rois de la terre. « Oui, ils se sont vraiment assemblés en cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples, contre Jésus, ton saint serviteur, que tu avais oint. Ils ont ainsi réalisé tous les desseins que ta main et ta volonté avaient établis. » Donc là, les rois de la terre, ils sont clairement visés. Ceux qui se liguent, et effectivement, là, pour le coup, c'était de circonstance, ceux qui se liguent contre le Messie de Dieu, c'est Hérode et Pilate. Autre citation, mais je ne vais pas les faire toutes parce que le temps nous est compté. Au chapitre 13, verset 33, Dieu a pleinement accompli, puisque en fait c'est toujours dans cette perspective-là, c'est Dieu fait ce qu'il a dit. Beaucoup des paroles, et donc ce qui nous est transmis, des apôtres dans le début de l'Église, c'était ça, l'idée qui sous-tendait leurs propos et leurs démonstrations, c'était, et c'est pour ça que l'Ancien Testament est beaucoup cité, c'est Dieu a dit ça, et bien voyez, il le fait. Parce que Dieu est vrai, et donc ce à quoi vous assistez, c'est la mise en œuvre de ce que Dieu avait annoncé, parce que Dieu fait ce qu'il a dit. Donc, nous aussi, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite au Père, Dieu l'a pleinement accomplie à l'égard de tous de nous, leurs enfants, quand il a ressuscité Jésus, comme il est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré », donc là il applique ça à la résurrection, « que Dieu l'ait ressuscité des morts, sans retour possible à la décomposition, c'est bien ce qui avait été déclaré », là il cite un autre texte, « Je vous donnerai les saintes et les véritables réalités de David, et tu ne laisseras pas ton saint connaître la décomposition ». Alors, encore une fois, pour aller vite sur le psaume 2, ce qui est singulier, c'est ce dont je vous ai dit tout à l'heure que c'était une citation, Donc, les rois de la terre et les grands conspirent contre eux, contre le Seigneur et contre son Messie, alors sous-entendu en disant, brisons leurs liens, rejetons leurs entraves. Ça aussi, c'est très moderne. Je parlais tout à l'heure des moqueurs, on en côtoie au quotidien. Ça aussi, c'est tout à fait ce qu'on est susceptible de vivre dans notre environnement. C'est que la soumission au Messie et à Dieu est présentée paradoxalement comme une aliénation. C'est-à-dire que se rebeller contre Dieu et contre son Messie, ça s'énonce par « brisons leurs liens, rejetons leurs entraves ». Et moi, ce que j'entends, mais je suppose que c'est aussi votre cas, ce que nous entendons, c'est que les aliénés, c'est nous. Parce qu'on se met sur les épaules des contraintes, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il faut faire déjà, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Enfin, la religion, puisque c'est comme ça qu'ils l'appellent, donc autant utiliser leur vocabulaire, la religion est perçue par nos contemporains comme quelque chose de contraignant. Ah oui, mais vous n'avez pas le droit de. Ah oui, mais vous ne faites pas. Oui, mais vous. Ah oui, puis vous êtes obligé de. C'est un singulier retournement de l'histoire. Parce que, alors évidemment, c'est le mensonge du début. Enfin, ce mensonge-là, il existe depuis la Genèse. C'est-à-dire, manger du fruit, ça va vous libérer. Ça va vous libérer de la contrainte de dépendre de Dieu. Parce que c'est contraignant de dépendre de Dieu. C'est bien connu. Et ce mensonge-là, il parcourt toute l'histoire du peuple de Dieu, peuple ancien comme peuple nouveau, alors que le Messie en question, c'est utile de se le rappeler, nous dit, mais si moi je vous rends libre, vous le serez vraiment. La victoire contre l'aliénation, elle est de son côté. Il nous rend libre. Et moi, ça me fait quand même doucement rigoler qu'il y ait des gens qui me disent, ah oui, mais alors du coup, même le dimanche matin, tu es obligé de te lever parce qu'il y a votre culte, il y a votre machin, et puis il y a tout ce que tu peux pas faire, et puis du coup, tu te prives de... franchement, moi, je préfère me lever pour venir au culte que de faire la grasse matinée ou de faire un jogging, et après de me bourrer d'antidépresseurs parce que la vie est tellement insupportable que... Bon, c'est... Moi, ce que j'observe, c'est que ceux qui disent la religion est une aliénation, ils sont aliénés, ils sont eux vraiment aliénés pour le coup, et autrement, et de manière bien plus difficile à vivre. Je vous assure, pour faire un métier où on est obligé de pénétrer dans l'existence des gens un peu au-delà des apparences, que moi, des gens vraiment libres, j'en rencontre pas beaucoup, vraiment libres à l'égard de toute aliénation. Mais c'est vrai qu'au niveau du discours, par ce mensonge tout à fait singulier, c'est nous qui passons pour des aliénés. C'est, aliénés, pas au sens de la folie ordinaire, mais aliénés au sens qui vivent sous la contrainte. Or moi, appartenir à Dieu, ça me rend libre, et vous aussi bien sûr. Mais je pense que je ne leur dis pas assez ça. Je ne leur dis pas assez à quel point c'est une illusion de se dire « on est débat, Dieu est mort », comme disait Nietzsche, du coup on va être libre. Oui, à la tienne. Mais ça c'est quelque chose de très moderne et qui revient souvent, y compris dans le discours de nos contemporains. Le cœur évidemment de ce psaume 2, c'est la fameuse déclaration d'adoption. Alors là, je me permets d'aller vite, puisque tout le monde n'était peut-être pas là, mais j'en ai déjà parlé de cette histoire. C'est vraiment des termes juridiques. C'est-à-dire, alors vous savez que c'est la prophétie de Nathan à David. On peut y aller, ça se trouve dans 2 Samuel au chapitre 7. L'utilisation de la formule de Samuel, chapitre 7, verset 12. Non, ça c'est 1 Samuel, donc 2 Samuel, chapitre 7, verset 12. Lorsque tes jours, donc ça c'est pour David, c'est donc Nathan qui dit à David, donc lorsque tu seras mort et enterré, enfin ça se dit pas comme ça, lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de toi-même, et j'établirai fermement sa royauté, c'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'établirai à jamais son trône royal. Et là la formule, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, s'il commet une faute, je le corrigerai, et en me servant d'homme pour bâton, et d'humain pour le frapper. Mais ma fidélité ne s'écartera pas de lui, comme je l'ai écarté de Saül, que j'ai écarté devant toi. Devant toi, ta maison et ta royauté seront à jamais établies, ton trône à jamais affermi. C'est selon toutes ces paroles et selon toute cette vision que Nathan parla à David. Alors évidemment, ça vise directement Salomon, bien sûr. Mais au-delà de Salomon, on le sait. Encore, ça pourrait faire un sujet, mais ce n'est pas mon sujet. Au-delà de Salomon, bien sûr, ça vise la descendance de David, c'est-à-dire le Christ, qui lui jouit d'une souveraineté perpétuelle. Alors, cette formule d'adoption et les textes dans ce psaume 2, on les retrouve, ils sont cités, alors, je le disais tout à l'heure, maintes fois dans le Nouveau Testament, mais je vais me contenter de deux citations dans l'Apocalypse, puisque dans l'Apocalypse, ça, on revient beaucoup là-dessus, donc au chapitre 12 et au verset 5, par exemple. « Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, et là on reprend l'expression, c'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer. » Alors voilà, alors diriger toutes les nations avec un sceptre ou mener paître avec, selon, encore une fois, on dit que c'est le sceptre royal ou que c'est le bâton du berger, parce qu'il n'y a qu'un seul mot en hébreu pour dire les deux, et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, alors la femme s'enfuit au désert, bon là c'est clairement Marie, où Dieu lui avait fait préparer une place. Et dans le même livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 15, donc les armées du ciel suivaient les chevaux blancs, il faut reprendre un peu plus haut, sinon on ne comprend rien. Je vis le ciel ouvert, c'était un cheval blanc, celui qui le monte se nomme le fidèle et le véritable. Il juge et combat avec justice, ses yeux sont une flamme ardente, sur sa tête de nombreux diadèmes, et inscrit sur lui un nom qu'il est le seul à connaître. Il est revêtu d'un manteau trempé de sang, et on ne peut pas se tromper sur l'identité, et il se nomme la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus d'un lin blanc et pur. De sa bouche sort un glaive, acéré pour en frapper les nations, il les mènera paître avec une verge de fer. Il foulera la cuve où bouillonne le vin de la colère du Dieu Tout-Puissant, etc. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas très, qu'on n'a pas trop souvent à l'esprit, qu'on ne garde pas à l'esprit en permanence, et qui n'est pas tout à fait conforme à l'esprit du temps. Mais le jugement de Dieu sera terrible pour ceux qui n'auront pas reconnu la souveraineté du Christ. Subir la souveraineté du Christ sous la contrainte, c'est-à-dire sans l'avoir reconnu volontairement, c'est quelque chose que la Bible décrit comme une situation extrêmement pénible. Et je vais revenir en conclusion sur ce texte-là. Évidemment, c'est abondamment cité aussi dans l'Épître aux Hébreux. Alors, deux citations seulement. Je reviens à la formule d'adoption. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils et moi aujourd'hui je t'ai engendré » et encore « Moi je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu, etc. Donc ça, c'est pour faire la différence entre le Messie, enfin la souveraineté du Messie et tout ce qu'il peut y avoir, tout ce qu'on peut imaginer d'autre, y compris la puissance des anges. Et au chapitre 5, c'est ainsi que le Christ non plus ne s'est pas attribué à lui-même la gloire de devenir grand prêtre, il l'a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Conformément à cette parole, tu es prêtre pour l'éternité, à la lumière, à la manière de Melchisédek. j'avais prévu là un développement que je vais zapper parce que le temps est déjà écoulé. Il y a une comparaison à faire avec Paul. L'intérêt de ce chapitre, de ce psaume 2, et l'intérêt que moi j'y trouve, c'est que, quand on y réfléchit, c'est à hurler de joie, la souveraineté du Christ, qui est un fardeau léger, hein, contrairement à ce que disent les rois. Alors évidemment, les rois, à commencer par Hérode, Pilate, machin, ils se disent, oui, mais si c'est lui qui est le roi, c'est plus nous. Bon, ça c'est embêtant. Et puis, encore une fois, ça ne vise pas que les rois, puisque pour ce qui est de ma vie, si c'est lui le roi, c'est plus moi. C'est pareil. Bon, donc là, il y a un enjeu. Mais moi, le bonheur que j'y trouve, au sens de la béatitude qui clôt le... c'est que la souveraineté de Jésus disqualifie toutes les autres. Il y a personne qui peut me regarder de haut et qui peut me dire « mets-toi à genoux parce que le souverain, c'est lui. » Et que du coup, toutes les fausses souverainetés n'ont plus de poids. Alors ça, c'est quelque chose que Paul développe, mais je ne le développerai pas. Il a une autre expression, puisque lui, il est dans une culture grecque, et dans la culture grecque, on appelle ça les éléments... Enfin, il y a une formule en grec pour dire ça, et qui est traduite par les éléments du monde. Et Paul a souvent, à plusieurs fois, cette réflexion, puisqu'on est en Christ, on n'est plus soumis aux éléments du monde. Puisqu'on est en Christ, plus personne d'autre que lui n'a le moindre pouvoir sur nous. Et ça, enfin... c'est quelque chose dont il faut mesurer l'importance. Il n'y a rien qui peut me dominer, autorité, pouvoir, domination, enfin, il y a tout un vocabulaire là-dessus, il n'y a rien qui peut, rien ni personne qui peut me dominer ou qui peut m'aliéner si je suis vraiment en Christ. Parce que la souveraineté, ça ne se partage pas. Et j'allais presque employer une comparaison extrêmement osée, mais ça me faisait penser à ça, donc je vais vous le livrer quand même. Une prostituée, si elle a un Mac, il n'y en a pas un deuxième, sinon il se prend un coup de boule. Certes, la comparaison est osée, mais c'est ça, on lui appartient. Et donc, n'importe qui ou n'importe quoi d'autre qui pourrait essayer de mettre la main sur nous, il ne le laissera pas faire. On est à lui. Et comme il le dit, personne ne vous enlèvera de ma main. Ça veut dire ça. Ça veut dire, si vous m'appartenez vraiment, personne ne vous prendra. Et vous n'appartiendrez à personne d'autre. Et ça, c'est extrêmement intense dans la liberté que ça me donne, puisque lui, il me rend libre. Il ne m'aliène pas. Et surtout, personne d'autre ne peut m'aliéner. Il disqualifie tous les autres pouvoirs et toutes les autres souverainetés. Alors, j'ai terminé, enfin, j'ai pas terminé parce que j'ai zappé beaucoup de choses, mais je termine vraiment avec des citations en disant ça va au-delà. Ça va au-delà parce que on pourrait dire il est le souverain et nous on est les sujets dociles, disciplinés. Hein, ça va au-delà parce que quand Dieu, le Père, lui dit à lui, par une formule d'adoption, et on pourrait se dire, mais pourquoi une formule d'adoption, alors que c'est son fils? Pas besoin d'adopter son propre fils. Alors pourquoi une formule d'adoption? Parce que quand il lui dit, par cette formule d'adoption, tu es mon fils, je t'ai engendré, aujourd'hui, ça lui donne le pouvoir, à lui, le Christ, d'en faire autant pour nous, c'est-à-dire de décréter que nous sommes les enfants adoptés de Dieu. Nous ne sommes pas simplement les sujets dociles et disciplinés du Fils de Dieu, nous sommes, parce qu'il est investi de ce pouvoir de faire adopter par Dieu tous ceux qui le suivent et tous ceux qui lui appartiennent, il fait aussi de nous, par la même formule, Galates chapitre 4 verset 3. Et nous, De même, quand nous étions des enfants soumis aux éléments du monde, tiens, ben, elle est là la formule de Paul, quand nous étions aussi des enfants soumis aux éléments du monde, nous étions esclaves, mais quand est venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptif. Fils, vous l'êtes bien, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Pierre, Père, tu n'es plus donc esclave, mais fils, et comme fils, tu es aussi héritier, c'est l'œuvre de Dieu. » Et il enfonce le clou dans Colossiens 2, et j'ai terminé, je vous rassure, Colossiens 2, chapitre 20 et 21, chapitre 2, versets 20 et 21, « Du moment que vous êtes mort avec Christ, et donc soustrait aux éléments du monde, rebolote, pourquoi vous pliez à des règles, comme si votre vie dépendait encore du monde, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, tout ça pour des choses qui se décomposent à l'usage, voilà bien les commandements et les doctrines des hommes, ils ont beau faire figure de sagesse, religion personnelle, dévotion ascèse, ils sont dénués de toute valeur et ne servent qu'à contenter la chair, du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu, c'est en haut qu'est votre but et non sur la terre, vous êtes mort en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. On est libéré de toutes les aliénations, je l'ai dit tout à l'heure, on est libéré du mal, on est libéré de la moquerie, on est libéré, enfin, je ne vous refais pas le catalogue, et cerise sur le gâteau, pourtant quelque chose qui n'est pas fondamentalement mauvais, mais on est même libéré de la loi. On est totalement libre. Et quand je disais associé, et là, j'ai vraiment fini, c'est que dans la suite, donc je vous ai lu la suite des dans le livre des Galates, mais l'identification, elle va aussi dans le fait que l'exercice de la souveraineté, par le Christ bien sûr, on y est associé, eh bien, elle est aussi pour nous dans l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 27, donc là, on ne parle pas du Christ, c'est le Christ qui parle. Et qui parle à qui ? Qui parle au vainqueur. Celui qui garde jusqu'à la fin mes œuvres, il se passe quoi ? Je lui donnerai le pouvoir sur les nations et il les fera paître avec une verge de fer. Et là, c'est le psaume 2. Comme on brise des vases d'argile, de même que moi aussi j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. C'est-à-dire tous les pouvoirs qui lui ont été donnés, il nous les donne à nous, y compris le fait d'être associé dans le traitement qu'il réserve aux nations, c'est-à-dire aux incrédules, une fois le jugement accompli. Alors, tout ça, bon, il y a encore mille choses à dire sur cette ouverture du livre des psaumes, mais si on garde tout ça présent à l'esprit, ça nous donne une idée de la place qui est donnée à l'Église auprès du Christ. C'est pas le peuple de ses esclaves. Et la plus belle des comparaisons qu'il puisse faire, c'est vous êtes l'épouse. Nous sommes collectivement l'épouse et pas l'esclave. Nous sommes collectivement associés à ce qu'il est, c'est-à-dire adoptés à nous aussi par le Christ. Dieu dit, tu es mon fils ou ma fille. Aujourd'hui, je t'ai engendré, c'est-à-dire je prononce à ton égard la même formule d'adoption que celle que j'ai prononcée sur mon fils naturel, et donc c'est pour ça qu'il y avait une formule d'adoption. Et c'est pas « je vais régner et tu seras bien content que je règne », non, c'est « je vais régner et tu vas régner avec moi », y compris dans l'exercice de la souveraineté à l'égard des nations. Toi aussi, tu auras un sceptre ou un bâton, et toi aussi, tu auras la part de souveraineté sur les nations que je te délégue. L'Église, c'est pas le français moyen du ciel. Puisque je suis dans les comparaisons audacieuses, finissons là-dessus. L'Église, c'est la Brigitte Macron du ciel. C'est-à-dire, elle n'a aucun titre, elle n'a pas de statut. Simplement, elle est juste aimée par le Big Boss. Et ça change tout. Elle n'a pas la même vie que nous. Tout simplement parce que c'est la femme du patron. Et ben, c'est ça qui nous attend. C'est pas d'être le citoyen lambda du royaume des cieux, c'est d'être l'épouse de celui qui règne sur tout et sur tous. Voilà, je laisse beaucoup de matière à mes petits camarades qui vont s'attaquer aux 148 psaumes qui restent.